La question de l'égalité dans l'héritage, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale et elle est protectrice pour les plus démunis.
Le féminisme, il a pris plusieurs couleurs aujourd'hui en Tunisie, et c'est tant mieux. Il y a un changement sociologique très, très important. Et ceux qui sont contre cette égalité totale, on n'y est pas encore, ne veulent pas voir cela.
La question de l'héritage, on n'est pas opposé à un débat sur cette question-là. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un débat social, qu'il y ait un débat populaire sur une question qui est très importante.
Là où il y a eu révolution, il y a eu échec, sauf en Tunisie. Mais la réussite est toujours fragile.
6 ans après le printemps tunisien, le président Essebsi a promulgué cette semaine une loi dite de réconciliation. Elle prévoit l'amnistie de fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature. Le texte initial allait beaucoup plus loin, prévoyant l'amnistie d'hommes d'affaires et d'anciens du régime Ben Ali. Le gouvernement a finalement reculé, mais l'opposition continue de dénoncer un coup porté à la démocratie naissante. Un pas en arrière, un pas en avant, le chef de l'État tunisien a pris cet été des engagements en faveur des droits des femmes. Le 13 août, jour de la femme, il a promis d'autoriser les mariages de musulmanes avec des non-musulmans, promesse tenue un mois plus tard. Autre annonce, celle d'une révision du droit de succession. Aujourd'hui, en cas d'héritage, les femmes perçoivent moitié moins que les hommes. Le président souhaite instaurer l'égalité successorale. Enfin, une loi contre les violences faites aux femmes doit entrer en vigueur début 2018. À l'approche d'échéances électorales, ces mesures visent-elles à s'attirer les faveurs des Tunisiennes, les femmes les plus émancipées du monde arabe, à faire diversion dans un pays plongé dans une crise économique, ou bien s'agit-il d'avancées réelles en direction de l'égalité totale ? Tunisie et Dieu créa la femme, c'est un magazine signé Nadine Epstein. Avec nous deux invités, Ouda Zekri, bonjour. Vous êtes franco-tunisienne et vous présidez le collectif Culture, Création et Citoyenneté, une association qui fait le lien entre la France et la Tunisie. Kader Abderrahim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, actuellement maître de conférences à Sciences Po. Je cite tout de suite le titre de votre dernier livre, Daesh, Histoire, Enjeux, Pratiques de l'État islamique, paru aux éditions Erol. Vous pourrez tous les deux réagir au reportage de Nadine Epstein. Nadine, quand vous vous êtes rendue à Tunis, c'était avec l'idée de vous pencher précisément sur le droit à l'héritage, mais ce sujet en a fait émerger beaucoup d'autres.
Oui, car en fait, cette controverse sur le droit de l'héritage qui défavorise les femmes renvoie à la question de l'égalité des sexes dans une société où les hommes sont très majoritairement aux commandes des pouvoirs, que ce soit politique, économique, social et familial, le poids des relations de fracterie et tout cela au moment où la Tunisie connaît des difficultés, de graves difficultés économiques, en particulier le chômage qui frappe en priorité les femmes et les jeunes diplômés. Mais aussi, depuis 6 ans, la société, les citoyennes et les citoyens sont fortement impliqués dans les affaires publiques, quel que soit le sujet. Et ça, c'est l'acquis de la révolution. Et les femmes sont en première ligne. Mais depuis janvier 2011 jusqu'à aujourd'hui, le pays cherche encore sa voie, même si beaucoup estiment que la Tunisie est en transition démocratique.
On part tout de suite à Tunis.
À côté de la place Pasteur à Tunis, les locaux du PASC, programme d'appui de la société civile. Mardi 17h, une dizaine de femmes engagées dans des associations un peu partout dans le pays sont venues rendre compte du travail qu'elles accomplissent. Elles échangent leurs observations sur l'implication des Tunisiennes dans le processus de démocratisation. Le droit à l'héritage est au cœur des discussions. L'héritage reste un privilège masculin. Le partage, selon le système de quotes-parts actuel, est inégal. Les hommes reçoivent le double des femmes.
Il n'y a pas ce rejet total de l'égalité dans l'héritage. Hein.
C'était un peu agressif cette dernière période. C'était vraiment le sujet de la semaine.
Oui. D'ailleurs, Mahab Chehesh Bilhad, il a lancé une pétition. Il a eu 170 000 signataires pour déchoir le président parce qu'il a fait cette proposition, parce qu'il dit que la religion, c'est une ligne rouge et toute personne, tout Tunisien qui est musulman doivent se soulever contre lui.
Non, ça ne marche plus, parce que c'est un peu le passage entre l'État civil et l'État islamique.
Et c'est le rôle normal et naturel de la société civile, c'est de faire ce contrepoids pour le pouvoir, pour les politiciens. Donc le peuple, à travers la société civile et les gens qui sont actifs, doivent veiller sur ses droits et faire pression et leur dire non, non, pour dire on veut cette loi.
Aïda Ben Chaban, présidente du réseau Coalition pour les femmes de Tunisie. C'est un réseau qui fut constitué juridiquement en 2012. C'est un réseau qui a été fondé suite à la nouvelle loi par rapport à la société civile, donc l'article 88. Ce réseau, et c'est l'unique réseau juridiquement constitué, il est constitué par de différentes associations. Et les associations ne sont pas fondamentalement féministes. Le référentiel, sont que, donc, ce sont les droits universels et l'égalité totale entre hommes et femmes.
En 2011, on parlait de 9000 associations en Tunisie, dont 3000 groupements de développement agricole. Les régions rurales de la Tunisie, l'intérieur de la Tunisie, est fondé sur l'économie sociale et solidaire, parce que les groupements de développement agricole, c'est une forme d'association qui intègre et implique la femme rurale dans la gestion de cette organisation, de cette association, de ce groupement, dans lequel il y a des femmes qui sont ou bien dans la gestion, ou trésorière, ou simple membre, mais qui jouent un rôle important.
Il a fallu peut-être travailler, comme a dit Nawel ou Sonia ou Marine, etc., sur l'employabilité, le renforcement économique. C'est le renforcement économique qui dote les femmes de cette indépendance.
Dalinda Larguet, je suis professeure. Je suis là sur ce poste de directrice générale du Centre de recherche, études, documentation et information sur la femme, CREDIF, depuis la Révolution. C'est vrai, les femmes étaient vraiment, c'est elles qui, après la Révolution, ont porté ces acquis. Je me rappelle très très bien ce que tous les groupes de femmes, les féministes, c'est-à-dire maintenant, il y a plusieurs associations qui avant n'existaient pas. Le féminisme, il a pris plusieurs couleurs aujourd'hui en Tunisie, c'est tant mieux. Il y a un changement sociologique très très important, et ceux qui sont contre cette égalité totale, on n'y est pas encore, ne veulent pas voir cela. Il y a maintenant plus de 62% des diplômés de l'université sont des femmes. Et nous, qu'est-ce que nous voyons pour le taux de chômage? Le taux de chômage des femmes, il est au niveau des diplômés de l'université, il est le double. La société tunisienne, elle est traversée par des idées, des pensées, des positions contradictoires. Le président, il a donc montré une volonté politique qui a dit qu'il n'y a plus de raison objective pour que les femmes continuent à hériter la moitié des hommes.
La prééminence de la lignée des hommes dans le droit de l'héritage est un ancien sujet de bataille qui redevient visible aujourd'hui. Dans la première moitié du XXe siècle, Théa Haddad, père de la pensée réformiste et émancipatrice, contestait ce déséquilibre. Son ouvrage « Notre femme dans la charia et la société » secoua la Tunisie. L'été dernier, le 13 août 2017, à l'occasion du 61e anniversaire de la promulgation du Code de statut personnel, référence juridique au profit des Tunisiennes, le président de la République et ses psys a levé les obstacles au mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Bien qu'aucune condition d'islamité ne soit exigée par les lois du pays, les hommes peuvent choisir qui ils veulent, les femmes musulmanes devaient se marier avec un musulman. Dans la foulée de ce retrait, le chef de l'État a proposé une révision du droit de succession. Une commission planche sur cette inégalité des parts, privant les filles de la moitié du patrimoine au profit des garçons. Aux terrasses des cafés de l'avenue Bourguiba, ce sont principalement des hommes qui sont attablés, comme ces trois jeunes gens.
Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du droit à l'héritage?
Je pense que c'est logique déjà.
Pourquoi?
Pourquoi la simple raison que nous sommes un pays musulman, donc l'héritage est issu donc du texte coranique. On peut le revoir, il faut qu'il y ait donc une grande décision au niveau du système politique et tout. Si jamais il y aura un texte qui prévoit le contraire, je ne suis pas contre moi. La femme participe bien donc au développement du pays, donc je trouve pas de problème dans
ça.
Vous
êtes d'accord?
Sur le droit d'héritage, donc moi, je ne suis pas pour l'idée du CIPSI. Je suis contre, parce que si nous sommes des musulmans pratiquants à 100%...
Ça veut dire que vous n'êtes pas pour l'égalité homme-femme.
Il faut faire la différence entre l'égalité et la justice.
Vous avez des frères et sœurs?
Oui, j'ai des frères. 5. 2 garçons et 3 filles.
Vous trouvez normal que si vos parents vous laissent quelque chose, qu'ils vous laissent le double de vos sœurs?
Normal, c'est la loi, donc il faut l'appliquer. Je suis musulman, je ne suis pas chrétien ou d'autres choses. Je suis musulman, donc il faut que j'applique la loi. Si nous sommes des musulmans, des vrais musulmans, donc ce problème-là n'existe pas.
Je ne sens pas, puisque la justice est l'équité.
Au moins, il faut qu'on applique la loi, donc même si la loi donc du Coran, donc c'est pour moi c'est prioritaire, c'est la priorité.
Et si par exemple la commission qui a été mise en place propose une loi pour mettre l'égalité entre les sœurs et les frères, vous serez contre?
Dans ce cas-là, donc je suis obligé.
Mais ça vous plairait pas?
Oui.
Conformément à la constitution tunisienne adoptée en 2014 qui établit l'égalité entre les citoyens et les citoyennes et en respect de la ratification par la Tunisie des conventions internationales sur l'élimination de toute forme de discrimination envers les femmes, le droit à l'héritage tel qu'il est aujourd'hui apparaît périmé, anachronique. Mais il se heurte aux sensibilités coraniques, au machisme et au conservatisme d'une partie de la société. Hamza Hadmi, 27 ans, vit à Gafsa, région défavorisée du sud du pays.
Droit de femme, si moi, exemple, si j'aurai mon part d'héritage, peut-être que je peux avoir mon propre projet par rapport à la famille. C'est-à-dire que ça peut changer même lorsque les femmes deviennent indépendantes, ça peut même être plus libre. Je ne peux pas, moi, accepter quelqu'un qui a fait expliquer le Coran, ça fait 1000 ans. 1400 et vient appliquer ça sur moi maintenant en 2017. C'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes façons de vie, c'est pas les mêmes mentalités. Et ça, c'est qu'à créer une schizophrénie même entre nous, c'est-à-dire entre nous les jeunes, lorsqu'on reste fille et garçon, elle te dit que voilà, je fume, je sors, je sais pas quoi, mais un jour je veux porter la foulard, mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire te porter la foulard, tu te sens un aura ou quelque chose comme ça. Elle te dit, mais non, la religion, l'explication, elle se sent coupable. Même les islamistes jouent toujours sur ça.
Saïda Ounissi, je suis secrétaire d'État à la formation professionnelle et à l'entrepreneuriat. Je suis membre du bureau exécutif d'Ennahda. J'étais porte-parole avant ma nomination ici au gouvernement. Et en tant que partie Ennahda aujourd'hui, cette notion des droits des femmes, ce qu'on n'aimerait pas, et d'ailleurs ça fait aussi partie un peu des préoccupations de la nouvelle génération, que ces jeunes soient à Ennahda ou ailleurs, ce qu'on n'aimerait pas, c'est d'être dans ce qu'on a pu être en tant que Tunisie pendant des décennies, c'est-à-dire juste utiliser cette question des droits des femmes, un peu comme une carte postale à l'international, pour cacher par ailleurs les autres défis ou les autres éléments qui se passaient pas bien en Tunisie. On a continué sur cette lancée après le vote de l'égalité totale entre les hommes et les femmes dans la Constitution. On est allé même plus loin, puisque nous sommes aussi le parti qui a poussé pour l'adoption de la loi qu'on appelle la loi organique de la lutte contre les violences faites aux femmes. La question de l'héritage, et notre parti a été très clair sur fait divers communiqués à ce sujet, on n'est pas opposé à un débat sur cette question-là. Au contraire, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un débat social, qu'il y ait un débat populaire sur une question qui est très importante et que l'on sorte un peu des schémas hyper classiques de les islamistes sont contre, les laïcs sont pour. Parce que ce n'est pas du tout la réalité en Tunisie. Ce n'est pas une question de religiosité en réalité. Il y a des personnes extrêmement religieuses et qui font même partie du corps des oulémas qui ont demandé à ce que cette question soit posée d'un point de vue chariatique, soit posée d'un point de vue législatif. On a dit qu'on était oui, on est d'accord pour le principe du débat sur cette question-là. Et en vertu des conclusions de ce débat-là, nous définirons notre position comme parti politique. Je considère que cette question-là n'est pas une question religieuse, mais c'est d'abord une question économique, une question d'investissement dans les régions, une question d'accès à l'emploi et d'accès à la richesse des femmes en Tunisie.
Les plus grandes gagnantes de l'égalité, y compris de l'héritage, c'est les plus démunies. Parce que les petites bourgeoises arrivent à s'en sortir parce qu'on leur lègue des choses, un capital de départ. Mais les plus démunis n'ont pas ce capital de départ pour démarrer de l'activité, pour investir, pour faire des choses. Donc de toutes les manières, c'est un rééquilibrage qui va vers plus d'équité. Hein. Et les femmes l'ont très bien saisi. L'autre jour, j'étais en discussion dans le Sahel, dans un petit patelin. Il y a une mémé avec ses petits-enfants en train de papoter. Et elle me dit, heureusement que j'ai des filles, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que mes filles qui s'occupent de moi. Parce que figurez-vous que dans la loi tunisienne, la prise en charge des parents revient aux femmes comme aux hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas que les hommes. On a tous les devoirs, les femmes. C'est-à-dire que la participation économique dans le foyer, mais pour la prise en charge des parents et autres, et si vous ne vous pliez pas, le juge peut vous y plier. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on soit privé du patrimoine. Et elle continuait, elle me racontait comment une vieille dame dans son quartier s'est trouvée virée de chez elle au décès de son mari. Parce que comme elle n'héritait que d'un huitième et qu'elle n'avait pas les moyens de racheter la part de ses fils, bah, ils avaient besoin d'un capital, ils avaient besoin de vendre la baraque, donc ils l'ont foutu dehors. Par exemple, on a remarqué dans le sud, dans certaines régions, les femmes n'héritaient jamais de la terre. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que la terre parte dans une autre tribu, une autre famille. Et donc on fait tout pour spolier les filles d'ailleurs. Souvent quand les frères disent « oui mais nous on vit de cette terre et on n'a pas les moyens de te racheter ta part », bah, elles se retrouvent sans rien et elles partent sans rien. Nadia Chaban, donc je suis membre du bureau politique du parti El Massar et j'étais à l'Assemblée nationale constituante, donc j'ai participé à la rédaction de la Constitution et participé à ce processus de changement et de rupture finalement.
Leïla, vous avez combien de frères et sœurs ?
Nous sommes quatre. Un grand frère et puis après trois filles.
Est-ce que vos parents ont un patrimoine ?
Oui, mon père a constitué un patrimoine tout le long de sa vie. Et puis ma mère également, de par l'héritage, bien que ce soit un patrimoine non encore exploité. Parce que toujours dans l'indivision, justement, qui remonte à la moitié des années 90. À ce jour, cet héritage n'est toujours pas réglé, selon les normes. Donc il y a quelques années, mon père a décidé de tout assainir en ce qui concerne son patrimoine personnel, par rapport à ses héritiers. Et depuis quelques années, nous avons été sollicités régulièrement par lui pour signer des papiers où il nous transmettait une partie à chacun du patrimoine, et où donc tout est réglé déjà de son vivant.
Il partage équitablement entre tous les enfants ?
A priori, oui. Justement, avec cette histoire de deux tiers, un tiers, je pense que on va réussir peut-être à la changer d'ici quelques années, mais en attendant, c'est dans ce côté partage inéquitable, les conflits que ça engendre souvent, parfois des situations d'injustice dans des milieux un peu conservateurs, où justement la fille se retrouve à la porte, sans patrimoine, sans possibilité. Si en plus elle n'est pas mariée, elle se retrouve sans rien du tout. Soit elle se plie au désirata du frère et elle se retrouve un peu à jouer le rôle de servante, soit complètement jetée à la rue.
Supprimer les freins à leur émancipation et à leur participation en tout lieu, les Tunisiennes, les pionnières et les femmes les plus libres du monde arabe bataillent pour l'égalité.
Quand elles rentrent chez elles aussi, il y a un travail qui les attend. Et on s'est rendu compte qu'en Tunisie, les femmes prenaient 8 fois plus de temps que les hommes pour s'occuper de leur famille et de leurs enfants. Certains hommes en Tunisie passent 1 minute avec leurs enfants, c'est tout. Et donc il faudrait trouver un juste équilibre et réorganiser un peu l'équilibre entre la femme et l'homme. Je suis Rim Geshem Atiya, je suis psychiatre, je suis professeure en psychiatrie. Je travaille à l'hôpital Razi, qui est le principal hôpital psychiatrique en Tunisie. On n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de médicaments. Enfin, on est toujours en train de se plaindre, mais il faut aussi reconnaître que ces 6 dernières années, on a bénéficié de nouveaux traitements, de nouvelles méthodes thérapeutiques. Les thérapies cognitives et comportementales, les thérapies interpersonnelles, la remédiation cognitive. Donc vraiment, ces 6 années ont été une année de révolution, même au niveau psychiatrique. On a beaucoup de trafic de médicaments, de déperdition au niveau des médicaments dans les hôpitaux qui fait que les hôpitaux croulent. Actuellement, la direction de pharmacie des médicaments est déficitaire parce qu'on n'est pas en train de la payer. Les caisses de sécurité ne sont pas en train de payer les hôpitaux, qui ne payent pas la pharmacie. Donc vous voyez, ça se mord la queue. Et puis je crois que c'est dans beaucoup de domaines, dans l'éducation aussi. L'enseignement est gratuit en Tunisie, les facultés sont gratuites. Vous savez, les études de médecine, ça coûte très cher. Et après, on est en train de perdre tous nos médecins qui sont en train d'aller en Allemagne et en France. On ne va plus avoir de médecins pour nous prendre en charge si on continue comme ça. Parce que le médecin tunisien est payé d'une manière dérisoire par rapport aux Marocains. On ne va pas aller très loin. Nous, en tant qu'universitaires, on est payé le quart de ce qu'est payé un universitaire marocain. Ça devient un sacrifice. C'est-à-dire, il faut être riche pour être hospitalier.
Pour ce qui concerne la corruption, selon le récent rapport de Transparency International, la Tunisie a été classée en 75e position sur un total de 176 pays. L'avocate Radia Nasraoui.
Rien ne marche. Le chômage, les gens qui sont partout en train de faire des sit-ins pour revendiquer leurs droits, leur liberté, leur droit au travail. Franchement, je trouve que le pays est en train de vivre une crise vraiment profonde à cause de l'économie. La société civile est divisée, plus qu'avant, divisée en 30 000 morceaux. Avant, on avait un objectif commun. Mon problème, c'est la torture et la corruption. Une fille qui a été violée, ses vêtements déchirés sont saisis par le tribunal. D'ailleurs, le juge d'instruction, il était bouche bée quand il a entendu qu'ils ont été libérés. Ils ont donné de la corruption, ils ont donné de l'argent. C'est vraiment, si on arrive à se débarrasser de tout ce qui est corruption et de tout ce qui est torture et les injustices. C'est les trois mots de la Tunisie après la révolution. Aujourd'hui même, une famille m'a téléphoné et le type, il pleurait parce que son frère, il a été torturé d'une manière sauvage à la prison de Sfax. Pour se venger de lui, c'est tout. C'est pas pour obtenir des aveux. Il y a la torture pour obtenir des aveux, c'est chez la police et chez la garde nationale. Et les tortures en prison, c'est pour punir les gens. J'ai consacré ma vie à batailler contre la torture. Maintenant, j'ai dit au juge, je consacre le reste de ma vie à batailler contre la torture et la corruption. Et quand je vois des juges, je leur dis exprès, il faut que vous voyez ce problème. Même quand je dis qu'il y a des magistrats intègres, les gens ne me croient pas.
Le taux de chômage dépasse les 15% et il atteint les 30% pour les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail, en particulier ceux des régions emblématiques, Kasserine, Bizerte, les moins nantis en matière de développement. Ces chômeurs observent une grève de la faim dans la Casbah de Tunis pour réclamer un emploi aux autorités.
Nous sommes devant le ministère des Affaires sociales. Nous sommes des diplômés, des professeurs, bac plus 4, et nous sommes des chômeurs depuis 4 ans, 6 ans, par exemple moi 12 ans. Et nous sommes de Bizerte. De Sagnène, c'est une région très très pauvre, très marginal, c'est-à-dire l'État n'aide pas ces gens-là. Ouais. Ou bien travailler, ou bien mourir. Il n'y a pas une autre.
Vous êtes
ici
à... Oui, ici.
Comme ça, oui.
Comme ça, sur le sol, avec une couverture.
Oui. Rien. Du sucre ou bien de l'eau.
Vous recevez aucune aide.
150 dinars par mois. C'est tout. Il y a des autres, lorsqu'ils finissent ses études, ils travaillent automatiquement, car ils ont du piston et des... Oui. Mais les pauvres, non.
Il y a trois mois que personne n'a négocié avec eux. Ils sont en grève de la faim de deux semaines, t'as vu. Et là, je commence à être inquiet. Moi, en tant que médecin, je suis inquiet pour la santé, parce qu'il fait chaud, parce que je sais qu'ils ne boivent pas assez, déjà.
Bonjour. Comment vous vous sentez? Faible. Fatigué.
J'ai fini mes études depuis 2006. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine privé, mais tu connais que le privé en Tunisie n'est pas un domaine organisé, c'est-à-dire tu ne prends pas ton salaire, il n'y a pas la sécurité, je demande un travail. C'est pourquoi, car je suis 37 ans.
Vous êtes de Tunis?
De Kasserine.
Kasserine,
mais je suis à Abbès. Nous, mon but, c'est un travail pour vivre, pour manger, pour lire, pour travailler, pour moi, pour la santé, pour ça, c'est ça.
Donc je viens de parler au ministre des Affaires sociales qui dit qu'il est tout à fait disposé à trouver des solutions. Il a plusieurs alternatives à donner et avec les jeunes, on va discuter et on va déterminer une date.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, les jeunes, de ça?
Donc, la première chose, là où ونتفاهموا شنو نعملوا على المستوى الصحي على المستوى الاجراءات هاني كنت نحكي لها بسوري دونك نتفاهموا في النهار الموعد ناخذوه مع وزير نتاع هذيا ونمشي معاكم كان ما تحبوا فهمتني نمشي معنا وقاسم مثلا نقترح نفسي انا ناخذوا معاه ونعملوا معنا محضر جلسه دونك ils ont dit que ils avaient eu des rendez-vous mais qui n'ont pas été respectés mais que nous on a une structure officielle de soutien des mouvements sociaux, mais aussi peut-être des représentants de l'UGTT, pourquoi pas. On va essayer de voir qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce qui intéresse les jeunes, quelles sont les solutions éventuelles et ce qu'ils en pensent. On verra ça au moins, parce que là, faire la grève de la faim, ne pas avoir un vis-à-vis, ça n'a aucun sens. On ne peut pas continuer comme ça.
Les médiations entre les pouvoirs publics et les jeunes sont au point mort. Le mouvement de grève de la faim se poursuit. Une vingtaine de diplômés chômeurs se relaient devant le ministère des Affaires sociales. Pour rappel, le chômage, notamment chez les jeunes, fut l'un des catalyseurs du soulèvement qui a abouti à la chute du président Ben Ali en 2011, au début du printemps arabe. En 2015, un quartet tunisien, patronat, syndicats, avocats et droits de l'homme, s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour sa réussite à avoir sauvé le dialogue national et la jeune démocratie issue de la révolution de 2011. Deux ans après cet encouragement, le pays vacille. Habib Gazdagli, président de la Manouba, qui termine son mandat à la tête de cette université.
Nous sommes en pleine période de transition où les gens se battent, donc se défendent et profitent bien de la démocratie. L'acte révolutionnaire est un petit moment, quelques mois, mais pour assurer la venue du nouveau régime, d'une situation meilleure, ça prend beaucoup de temps. Il faut de la mobilisation parce qu'on ne voudrait pas une quelconque transition. Nous voudrons vraiment une démocratie soit au service de la Tunisie, de la Deuxième Seconde République. Parce qu'on veut qu'il y ait de la démocratie avec l'application de la loi. Parce que le pays est en danger. Il y a trois dangers qu'il a couru. Tout d'abord, la guerre civile en 2013. Partout, il y a eu des révolutions. Il n'y a eu que des guerres civiles et des situations difficiles. Il y avait le risque aussi de colonisation, d'occupation étrangère. Nous l'avons vécu au mois de mars 2016 à Benguerdan. C'est réel. On aurait pu avoir un Waziristan. Un tampon entre la Tunisie et un pays en défection, c'est la Libye. La Libye. Et troisième danger, c'est la faillite économique. Là où il y a eu révolution, il y a eu échec, sauf en Tunisie. Mais la réussite est toujours fragile. Donc on doit s'intéresser, faire beaucoup de... comme on le fait au niveau international pour la Libye, pour la Syrie. Mais aussi on doit le faire surtout parce que si la réussite de la Tunisie peut... faire revenir l'espoir en Libye, en Syrie, au Yémen, et la liste est longue. Pour ma génération, c'est une chance, c'était un rêve qui s'est réalisé en 2011. Et c'est important de ne pas rater cette occasion, cette chance historique qui s'est offerte à la Tunisie pour installer un pays moderne et démocratique. C'est une marche, une longue marche, mais il nous appartient de la concrétiser ou bien de la faire aboutir.
Je m'appelle Noureddine Arbaoui. Je suis le président du bureau politique du Parti Nahda. Je suis psychologue de fonction. J'étais en prison à perpétuité et j'ai passé plus que 17 ans en prison entre 1991 et 2008. Nous sommes actuellement en présence de Nahda qui évolue. Nous sommes dans une période de transition démocratique. La démocratie, c'est la liberté, c'est-à-dire que nous sommes le parti qui a les capacités d'être au gouvernement. Nous y sommes maintenant. Nous gouvernons avec d'autres partis. Tout le monde est en transition. La Tunisie est en transition. Nahda aussi. C'est-à-dire, nous sommes des musulmans. C'est une réalité. Nous y sommes fiers. Et nous sommes démocratiques, dans tous les cas. Nous avons une institution qui s'appelle l'ARP, l'Assemblée nationale. C'est là où peuvent être abordés tous les sujets, toutes les questions.
Vous avez aussi accepté l'égalité homme-femme. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord pour changer le droit de l'héritage?
D'ailleurs, je pense qu'il y a un malentendu sur ce concept de l'égalité de l'héritage. Pour nous, comme parti politique, nous sommes prêts à discuter tout, dans le cadre de la Constitution. C'est-à-dire, le jour où il y a un projet de loi vraiment sur cette question, nous serons prêts à discuter. On ne s'oppose pas à la discussion.
Le Premier ministre tunisien, le jeune Youssef Chahed, voudrait accélérer les réformes réclamées par le FMI en contrepartie d'un prêt d'un peu moins de 3 milliards de dollars. Augmenter les impôts, freiner l'augmentation des salaires pour relancer la croissance et créer des emplois, le tout sans provoquer de grogne sociale, le défi est de taille. Pourtant, la Tunisie est en état d'urgence économique, les marqueurs, balance commerciale, une dette publique ayant plus que doublé en 5 ans, tout montre une dégradation persistante.
Oui, je suis Sami Suili, je suis secrétaire général du syndicat national des médecins à la santé publique et des pharmaciens et des dentistes, bien sûr. Le problème du chômage, le problème du travail, le problème de la perte du pouvoir d'achat et la chute du dinar. Il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, donc il y a eu beaucoup de chômage. Et la politique du gouvernement qui ne s'est pas opposée à toute cette économie informelle qui s'est développée dans le pays et qu'ils n'ont pas imposé, tous les trafiquants, les passe-droits, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les échanges à travers les frontières, des produits, des importations se font d'une manière illégale, sans contrôle. Les produits chinois ou les produits turcs qui entrent par la Libye ou les produits qui viennent par l'Algérie, les produits qui sortent vers l'Algérie, les produits qui viennent, etc. Donc il y a tout un commerce qui se développe, dont les revenus ne sont pas contrôlés par l'État, qui ne paye rien à l'État. Et l'État a des difficultés à avoir un budget de fonctionnement correct parce qu'une grande partie de l'économie n'est pas contrôlée. De toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge tant qu'ils n'auront pas déclaré ce qu'ils veulent exactement. Alors, moi je leur dis, des fois quand on a des débats à faire avec les ministères, je leur dis je les vois pas sans Christine parce que, comme de toute façon, ils sont toujours en train de demander à Christine Lagarde ce qu'il faut faire. Tant qu'à faire, on n'a qu'à débattre directement avec elle. Hein. C'est pas... Ben oui, il n'y a pas besoin de ministre. Tu mets des gens qui sont là et qui disent ce que veut le FMI, on voit, si on est d'accord, on n'est pas d'accord, et puis voilà.
Quel poids et quel rôle a aujourd'hui l'UGTT ?
L'UGTT reste quand même une des principales forces sociales et politiques dans le pays, parce que déjà il y a 700 000 adhérents à l'UGTT, si on compte leur famille par rapport à un pays comme la Tunisie, ou ouais, 800 000 peut-être même. Ça fait beaucoup de monde, hein. Pratiquement toutes les forces politiques sont à l'UGTT, mais la particularité de l'UGTT, c'est quand tu es à l'UGTT, même si tu appartiens à n'importe quel parti politique, tu restes dans l'optique syndicale et des lignes rouges que tu ne dépasses pas, etc. Donc il y a des traditions de compromis. L'UGTT a essayé ces dernières années d'intervenir dans le sens de la stabilité. C'est le rôle des syndicats, hein. Les syndicats c'est leur rôle. Et donc à chaque fois on consulte l'UGTT, c'est trop parce que l'UGTT c'est pas du tout à mon avis son rôle d'être un partenaire politique, c'est un partenaire social, ça a ses revendications. L'UGTT peut donner un point de vue, mais là l'UGTT intervient à tous les niveaux, à tout moment. Donc l'UGTT est aussi victime de la crise actuelle et du rôle qu'il joue, ce rôle de médiation et de stabilisation qu'il est en train de jouer.
La population tunisienne s'élève à près de 11 600 000 habitants, composés de 50% de femmes et 50% d'hommes. La diaspora, un peu plus d'1 300 000 personnes, est à 87% installée dans des pays européens, en tête desquels la France, l'Italie, l'Allemagne. La sociologue Amel Marfoud, elle, a choisi la Suisse.
Féministe, donc engagée quand même dans le mouvement associatif tunisien, mais en même temps, je suis sociologue et chargée de recherche, en tout cas, collaboratrice scientifique dans une école de travail social. J'ai coordonné la publication du numéro de Nouvelles Questions Féministes sur le féminisme au Maghreb, qui est paru en 2014. Comme tunisienne vivant à l'étranger, en fait, parce que j'ai un peu la chance d'avoir ce recul de vision qui permet de voir que malgré tout l'environnement économique, social qui est très difficile en Tunisie en ce moment, c'est vrai que ça avance quand même. On voit très bien que la loi musulmane est arrivée à un moment où les femmes n'avaient aucun droit. Donc déjà, c'était une avancée par rapport à ce siècle-là où les femmes n'avaient rien du tout. Donc leur donner déjà la moitié de ce que les hommes avaient, c'était déjà une révolution. Mais ça veut dire que quand on lit de façon progressiste le texte du Mans, on peut très bien aller et chercher des arguments pour aller plus en avant dans une égalité. Bon, il y a peut-être encore à faire au niveau des hautes sphères, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup dans la base, très peu dans les postes de décision au niveau des partis politiques, par exemple, au niveau du syndicat. Le syndicat, ça fait combien d'années que le syndicat existe, je ne sais pas, une cinquantaine d'années. C'est que cette année, juste cette année, en 2017, qu'il y a enfin eu une femme élue au bureau national de l'UGTT. C'est une petite victoire. Oh.
Tunisie et Dieu créa la femme, un reportage de Nadine Epstein. Et la chanson qu'on vient d'entendre s'intitule Liberta, interprétée par Emel Matlotti, une artiste engagée qui a participé à la révolution tunisienne. Nous sommes toujours avec Kader Abderrahim, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et avec Ouda Zekri, présidente du collectif Culture, Création et Citoyenneté. Alors, la Tunisie est en avance en matière de droits des femmes dans le monde arabe. Pour quelle raison, Kader Abderrahim ?
Je pense que c'est le fruit de l'histoire. La Tunisie, c'est un petit pays, c'est grand comme la Belgique, hein, on vient de le dire, 10-11 millions d'habitants, à peu près la même population. Et puis surtout, elle a pu bénéficier à un moment, d'abord il y a eu un statut de protectorat, hein, ce qui n'était pas le cas de son voisin. Elle a pu maintenir des structures à la fois sociales et politiques assez importantes. Et donc, dans ce pays, il y a eu aussi la volonté de cette puissance tutélaire française de maintenir à la fois une sorte de tête de pont avancée de ce que de prolongement ou de projection de la manière dont la France pouvait se voir ou se vivre en ce début de 20e siècle, au moment de la colonisation. Et puis, les Tunisiens eux-mêmes, c'est une société qui est quand même très élaborée, on vient de l'entendre dans le reportage, très sophistiquée, avec des élites urbaines qui sont anciennes, avec une bourgeoisie assez éclairée. Et je pense qu'il y a eu la convergence de cette diversité, de cette variété. Et puis, je crois que ce qui est fondamental et ce qui est central en Tunisie, et qu'on ne retrouve pas ailleurs au Maghreb, c'est l'éducation. Donc très tôt, dès l'indépendance d'ailleurs, hein, le premier président Bourguiba a mis en place l'école obligatoire pour tout le monde, et donc tout le monde, dans les faits, je veux dire, c'était réel, c'était pas juste une volonté, tout le monde a pu avoir accès à l'école, et je crois que ça change considérablement à la fois la manière dont on peut se vivre dans sa propre société et puis le rôle qu'on peut jouer. Donc il y a une conscience sociale et une conscience citoyenne qui est très développée en Tunisie, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays voisins.
Et alors aujourd'hui, Ouda Zekri, est-ce que vous diriez que la diaspora joue aussi un rôle dans cette émancipation ?
Oui, je pense qu'elle joue un rôle dans cette émancipation, ne serait-ce que par exemple l'année dernière, pour l'abolition de l'article 227 bis, qui permettait à un violeur de pouvoir épouser la jeune fille de moins de 16 ans, j'insiste, qui a été violée. Et on a mené une bataille ici, depuis la France, notamment avec Nadia Chaban. Et on a réussi, avec d'autres bien évidemment, à en parler, à médiatiser surtout cette affaire, à en parler. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer, parce que ici en France, on est quand même en jouit de cette égalité-là, de cette double citoyenneté, et on a envie que les choses avancent. Donc je pense qu'on peut être un moteur, même si les choses viennent d'en bas. Hein.
Alors,
cette question de droit à l'héritage est une question, j'ai envie de dire, un peu récurrente. Presque chaque année ou chaque deux ans, un député essaye de trouver une solution. L'année dernière, c'était quelqu'un qui proposait que finalement on laisse les choses dans l'état actuel. Mais si une femme conteste la décision, elle aille en justice et le juge lui donne raison. Pourquoi, comme ça, c'est comme un boulet, finalement, ça avance, ça recule. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité qui se présente?
Oui, moi je pense qu'il y a une opportunité qui se présente, qui est celle des élections de 2019, et que Béji Caïd Essebsi, enfin politicien, a voulu en profiter et mettre cette affaire en avant.
Pour avoir les femmes.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a présenté au début. Si vous vous souvenez, quand il a été élu président, il a essayé le maximum de s'identifier à la figure tutélaire de Bourguiba, hein, notamment en ce qui concerne les habits, tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, il dit qu'il y a eu 1 million de femmes qui ont voté pour lui, et il a envie de poursuivre sur cette voie-là. Mais sauf qu'il dose bien, il sait, il dit on va poser le débat, on va étudier un texte. Et il s'est entouré de figures emblématiques de l'ancienne opposition tunisienne, notamment Saïd Agaraj, qui est aujourd'hui la porte-parole du parti. Et c'est pas anodin, c'est pas par hasard. Il a envie d'utiliser les femmes, encore une fois. C'est pour ça que, oui, je suis d'accord sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais en partie, c'est-à-dire que la question des femmes a été utilisée et instrumentalisée par les pouvoirs politiques en Tunisie, aussi bien par Bourguiba, même s'il a le mérite d'avoir posé le CSP.
Ça a permis de faire avancer les choses.
Bien sûr, ça a permis de faire les choses, mais pas assez. Et aujourd'hui, donc Béji Caïd Essebsi s'inscrit là-dedans. Et pour répondre un peu à votre question, il y a des va-et-vient Pourquoi ? Parce que on n'est pas arrivé à avoir une lecture, que je dirais, de l'endo-discours, de l'intérieur même du Coran. Il y a toujours, c'est-à-dire, ce sont plutôt les gens de gauche, de l'extérieur, qui disent on est contre ce texte, qui ne favorise pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais il n'y a pas eu de lecture de l'intérieur. Et je vous suggère de voir ce qu'on a dit l'anthropologue et philosophe Youssef Sedir, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Nous n'avons jamais lu le Coran », où lui, par exemple, en ce qui concerne l'héritage, il donne une autre lecture. Il dit « Le Coran ne dit absolument pas « on doit donner à l'homme le double de la femme », mais on doit donner à la femme au moins 50% de ce qu'on donne à l'homme ».
Alors, concernant ce droit à l'héritage, donc le parti Ennahda s'est dit prêt au débat. Ils ont dit on ne s'oppose pas à la discussion. Vous pensez, vous, Kader Abderrahim, qu'on peut aboutir rapidement sur ce dossier ?
Non, je ne pense pas, non. C'est un sujet compliqué parce que je pense qu'on travaille là ce qu'on appelle en sciences politiques la société profonde. Il faut pas oublier quand même qu'on est dans une sur cette rive orientale de la Méditerranée, sur des sociétés qui sont profondément conservatrices. À l'indépendance de la Tunisie, il y avait à peu près 66%, les deux tiers de la population, qui étaient d'origine rurale. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Il y a une majorité de la population qui travaille dans les grands centres ou dans la périurbanité. Donc ça accompagne aussi une évolution de la société. Donc évidemment, le débat doit être posé. C'est le rôle des mouvements associatifs, des partis politiques, quels qu'ils soient, des citoyens évidemment, et des citoyennes, quels qu'ils soient là aussi. Mais ça prend du temps. Les mentalités n'évoluent pas nécessairement. Je prends un exemple concret. Au Maroc, il y a 3 ans, le roi Mohamed VI a voulu une modification du code du statut personnel, ce qu'on appelle le code de la Moudawana au Maroc, notamment sur le mariage des filles. Et puis on constate, alors c'est évidemment, ça a été voté au Parlement, etc. Mais dans les faits, et je pense que, enfin moi je participe de ceux qui pensent qu'il vaut mieux s'attacher aux faits plutôt qu'aux mots et à cette réalité qui est parfois difficile à accepter. Dans les faits, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de bouleversement, précisément parce que les mentalités n'ont pas encore suffisamment évolué. Mais pour autant, maintenant la loi est là. Donc il y a toujours cette possibilité de se référer aux droits positifs et non plus nécessairement aux droits coutumiers. Et je pense qu'en cela, au moins, le débat, il est utile.
Avec la question ensuite de la mise en application de la loi, est-ce que...
Ça aussi, c'est une dimension qui est très importante parce que, alors bon, je ne vais pas ici lancer le débat, savoir s'il y a eu révolution ou pas révolution, au sens marxiste, au sens de l'histoire, des sciences politiques, mais enfin, bon, en tout cas, on peut dire qu'il y a eu des grands bouleversements, c'est indéniable et incontestable. Mais les choses, globalement, notamment pour ce qui est de la justice, n'ont pas beaucoup changé. On voit les comportements des magistrats ou de la police. On parlait tout à l'heure à Radia Nasraoui dans le reportage. J'évoquais des scènes de torture qui sont maintenant régulièrement dénoncées, c'est ça peut-être la différence. Mais globalement, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Ça aussi, c'est une bataille qu'il faut mener, qu'il faut conduire quotidiennement.
Et pourquoi ces effets ? Parce que finalement, les traces de la dictature, ça prend du temps avant de passer à la démocratie et de changer.
Des luttes de pouvoir, tout simplement. Qu'on soit une institution, un corps constitué, une association, dès l'instant qu'on a gagné du pouvoir, évidemment, on n'est pas prêt à y renoncer.
Et puis, c'est une question qui est très, très sensible. Mais en tous les cas, si on prend, par exemple, ce qui s'est passé avec Bourguiba, c'est Bourguiba qui a quand même décidé, par exemple, d'abolir la polygamie et la répudiation. Pourtant, la société n'était pas encore prête à accepter ça. Mais ça a été fait. C'était une décision politique. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut continuer dans ce sens-là. Mais effectivement, comme vous dites, ils ont le pouvoir, ils n'ont pas envie d'y renoncer. Et surtout, comme Nidetouns, donc le parti au pouvoir, est allié à Nada, ils n'ont pas envie de les froisser. Eux qui ne sont prêts qu'au débat, un éternel débat, mais ils ne sont pas prêts vraiment à faire avancer les choses.
Kader Abderrahim.
Oui, c'est important là, ce qui vient d'être dit. Enfin, en mon sens, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est très important parce qu'on a deux partis qui sont les partis majoritaires en Tunisie. Nahda, qui a un vrai projet politique. Il n'y a pas d'ambiguïté, tout le monde le connaît. En revanche, pour ce qui est Nida Tounes, aurait été, je ne vois pas hein, de projet politique pour Nida Tounes. Il y a juste peut-être une forme de... on est dans une forme de nostalgie, de néo-bourguibisme. Et on n'est pas dans une projection de la Tunisie du 21e siècle, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 10 ans dans ce pays. Et ça fait une différence considérable, parce que je crois que Nahda aura toujours un temps d'avance sur ses adversaires politiques, tant que les autres mouvements politiques n'auront pas réussi à définir un vrai projet. Et je crois que c'est ça qui est aujourd'hui en jeu en Tunisie.
Nadine Epstein.
D'autant qu'il faut ajouter que les forces d'opposition en Nida Tounes ou même en Nahda sont très divisées.
Alors, quasi absente de la scène, oui, c'est vrai.
Est-ce que cette question, finalement, vous avez rappelé que il y aura des élections, on devait avoir des élections municipales à la fin de l'année, elles ont été reportées au début de l'année 2018, 2019, c'est l'année des élections législatives et présidentielles. Est-ce que finalement, ce droit de l'héritage peut devenir un enjeu, une façon de...
Je pense qu'il l'est déjà. Il est déjà un enjeu, puisque le BGKDCEPS n'a pas attendu la veille des élections pour en parler et pour poser ça sur la scène politique. Il n'a pas uniquement parlé des droits successoraux, mais il a parlé, par exemple, il a aboli la circulaire 73 pour le mariage de la musulmane avec le nom musulman. Donc il a vraiment envie de mettre en avant la question de la femme pour pouvoir l'utiliser après. Parce qu'il y a de gros problèmes au sein même de Nida Tounes, et notamment pour qui va être président. Est-ce que ça va être le Béji Raïd Sepsi ou est-ce que ça va être son fils? Ça aussi, c'est à prendre en compte.
Mais quel âge il a? Il peut se représenter?
Oui,
légalement.
Rien ne l'empêche de se représenter.
Il est déjà très âgé, non ?
Oui,
94 ans.
C'est un prix grabataire, hein, permettez-moi l'expression. Mais oui, c'est ce que je pense. Mais en tous les cas, oui, la question de la femme, et en plus, on nous dit, étant donné l'état économique du pays, on nous dit c'est pas prioritaire de nous parler des femmes, de l'affaire du bisou, est-ce qu'on a le droit, pas le droit,
alors,
les libertés individuelles.
Alors l'affaire du bisou, parlons-en un tout petit peu quand même, parce qu'effectivement donc c'est ce Français et cette Tunisienne qui ont été trouvés par des policiers, alors plus ou moins enlacés selon les versions, et qui se retrouvent condamnés à de la prison ferme tous les deux, 2 mois pour elle, 4 mois pour lui. Ça fait quand même pas mal de bruit en Tunisie. Vous avez suivi cette affaire tous les deux?
Oui, j'ai suivi cette affaire et j'ai été absolument outré, surtout qu'on a en principe une constitution qui protège les citoyens et les libertés individuelles, mais ce n'est absolument pas appliqué. Et d'ailleurs, les juges détournent certaines ou interprètent d'autres lois qui existent pour pouvoir condamner ces gens-là. Il y a eu une forte mobilisation, mais j'ai l'impression que cette mobilisation-là n'a pas payé. C'est peut-être parce que, étant donné la conjoncture économique, les gens, finalement, pour eux, c'est pas une priorité. C'est des petits bourgeois qui viennent passer un week-end à Tunis, ils ont du fric, ils ont une voiture. Donc, effectivement, ça a pas abouti et je pense qu'il faut continuer à se battre.
C'est vrai que une des plus grosses difficultés de la Tunisie aujourd'hui, c'est la situation économique.
Oui, ça c'est indéniablement. C'est en ce sens que je pense que Nida Tounes a une responsabilité, parce que cette incapacité à définir un projet économique, politique, cette incapacité à se projeter est aussi un danger pour la démocratie tunisienne. Parce que la question sociale va devenir tangente, je ne sais pas, peut-être explosive, je ne le souhaite pas évidemment, mais on atteint un seuil critique. On entendait dans le reportage la question des diplômés chômeurs, hein, on entendait ce jeune garçon, 37 ans, qui n'a jamais travaillé. Donc on voit bien que c'est une question qui n'est pas nouvelle, qui n'a pas fait irruption en 2017 ou en 2011, et qui date de bien avant cette équipe dirigeante. Mais pour autant, elle est aujourd'hui un enjeu absolument central en Tunisie, et des choses sont à faire. Notamment, il y a un enjeu, il y a un secteur économique en Tunisie qui est extrêmement important, c'est le secteur du tourisme. On voit aujourd'hui qu'il est totalement sinistré. Alors évidemment,
du fait des actes terroristes.
Voilà, en raison des actes terroristes qui ont eu lieu. Pas uniquement, mais c'est aussi un secteur qui a été incapable de se réformer et de comprendre l'évolution et les nouvelles demandes, notamment des touristes européens. Donc ce lobby est aujourd'hui très puissant et très influent, et il n'est pas prêt, là aussi, on revient d'une autre manière à la question des femmes, à lâcher ce pouvoir pour se réformer et peut-être imaginer d'autres formes de tourisme aujourd'hui. Donc là aussi, je crois que les partis politiques ont une grande responsabilité à être des moteurs, à être des locomotives pour des réformes qui pourraient évidemment mettre à la fois la Tunisie sur les rails d'un véritable état de droit, pas simplement une démocratie formelle, et en même temps régler, ou peut-être en tout cas avancer sur la question sociale.
Concernant l'économie, c'est avant tout une mauvaise gestion. Est-ce que c'est aussi la corruption qui pose problème dans le pays?
On a découvert effectivement après le départ de Ben Ali à quel point cette famille a été absolument corruptive et enfin bon, ça a été totalement indécent. Hein. Les sommes qui ont été chiffrées, ce qu'on a découvert est totalement effrayant. Donc oui, ils se sont arrogés, appropriés une partie des biens de l'État. Et aujourd'hui, la situation, là aussi, n'a pas beaucoup changé en termes de corruption, notamment dans l'administration. Et ça pose un énorme problème. Les tensions, la violence sociale qu'il y a entre les citoyens et l'administration, elle est quotidienne. Donc c'est aussi, je pense, un élément qui peut être un élément déclencheur de nouvelles violences politiques.
Nadine Epstein.
Non, mais je voulais rajouter, c'est dans ce sens qu'il y a eu le vote de la loi de la réconciliation. Et donc on continue sur le chemin de la corruption. Donc, c'est-à-dire voilà, qu'on va amnistier les fauteurs d'hier, les corrupteurs d'hier. Ils vont à nouveau réintégrer la Tunisie post-révolutionnaire.
Ce que vous percevez comme quelque chose de très inquiétant.
Bien évidemment, ce que je perçois comme quelque chose de très inquiétant.
En ce sens, Nadine, on ne peut pas penser qu'il y a eu une révolution.
Oui, ben, oui, je suis tout à fait d'accord.
Dans ce contexte, dans toutes ces difficultés, où intervient et quel poids a cette menace terroriste et ces actes terroristes qui ont frappé la Tunisie, bien que en ce moment, c'est plutôt calme?
La menace, elle est constante, hein, tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes en Libye, tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes au Sahel.
La Tunisie a accueilli quand même 1,5 million de Libyens.
Oui, bien sûr. Non, mais enfin, vous savez, il y a une relation très ancienne avec la Libye. C'était un peu une soupape de sécurité aussi pour le régime de Ben Ali. Il y a une contrebande très importante. Ça a permis précisément à tous ces jeunes qui trouvaient pas d'emploi de pouvoir aller passer quelques jours, d'acheter des produits en Libye puis de les revendre en Tunisie. Donc, c'était une soupape de sécurité. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce genre de situation. Les frontières sont bouclées pour des raisons de sécurité. Les Algériens, évidemment, sont extrêmement inquiets. Les Marocains sont inquiets. Les Tunisiens sont inquiets parce qu'ils ont cette frontière avec la Libye. Tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes dans cette région du monde, je crois que la menace, elle sera constante, pas simplement pour la Tunisie. Alors, on parle beaucoup de la Tunisie parce que c'est un pays qui a été frappé et donc fragilisé. Et là, nous avons une responsabilité directe. Nous, la France, je pense que comme on a mis du désordre dans cette région du monde, on a une responsabilité morale à contribuer à remettre de l'ordre.
Et en Tunisie même, est-ce que le désespoir peut conduire certains à se tourner vers le terrorisme?
Malheureusement, on voit que beaucoup de ceux qui ont rejoint les gens de Daesh sont des Tunisiens ou qu'ils ont participé à ces groupes.
Le grand contingent, en tous les cas, est tunisien, ça c'est certain. Mais pas uniquement le contexte international, mais le contexte national aussi, surtout au niveau de l'éducation. Parce qu'on a un système aujourd'hui qui est complètement gangréné. Nahda a repris des postes suite à l'amnistie aussi. Et donc, on a vraiment du lavage de cerveau à l'intérieur même de l'institution qui est l'éducation nationale en Tunisie. Et ça participe aussi de cet endoctrinement-là, d'emmener les jeunes vers le terrorisme. Et puis la qualité aussi de l'enseignement. Aujourd'hui, on en sort, oui, on est diplômé, on a un bac plus 4, on a un bac plus 5, mais ça ne vaut absolument rien. Et aussi, de parler du rôle de la culture. Ça veut dire que la culture ne joue pas encore assez son rôle en Tunisie et ça reste cantonné à des petites élites, des saloons, hein, ce que j'appellerais un peu un truc de salon. Et il faudrait qu'elle aille dans les régions pour pouvoir agir sur les enfants en Tunisie.
Justement, vous, Dazekri, vous avez monté un festival culturel et la culture, pour vous, c'est un outil qui peut faire progresser la société tunisienne.
Oui, je pense qu'elle peut faire progresser la société tunisienne comme elle peut faire progresser la société française. Parce que, par exemple, moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai mené des ateliers de théâtre avec des jeunes issus de l'immigration. Et je vois le pouvoir que ça a, alors qu'au début, ils ne parlent pas bien français, alors qu'il y a dans leurs mots une grande violence. Ça change les choses. Et je pense que ça peut aussi changer des choses en Tunisie, en allant vers ces gens-là, en leur faisant faire des choses et en leur montrant surtout qu'ils ont des capacités, qu'ils peuvent créer. Je pense que c'est très important.
Kader Abderrahim, un tout petit mot. Vous êtes plutôt optimiste malgré tout, malgré tous les freins qu'on a soulignés?
Oui, je pense que les Tunisiens, ils ont la capacité à réagir. Ils ont aussi la capacité à évoluer, ça c'est très important. Et puis je pense qu'il y a un processus qui est en marche. Vous savez, la démocratie c'est d'abord une pratique. Donc le processus qui est en marche, c'est celui d'accepter la contradiction. Et à partir de là, je crois que tout est possible et que cette évolution, elle sera nécessairement positive et elle peut avoir des effets bénéfiques pour les voisins.
Merci Kader Abderrahim, merci Ouda Zekri. C'était le magazine de la rédaction, Tunisie et Dieu créa la femme, avec des reportages de Nadine Epstein, Brice Garcia à la réalisation et Pierrick Monsigny à la technique. Vous pouvez retrouver ce magazine avec des interviews complémentaires sur franceculture.fr.